et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Notre mort. Amen. Bien. Donc vous venez pour la soirée cinéma, c'est ça? C'est ça. Très bien. On le fera l'année prochaine, on reprendra. Hein. Oui, c'est sûr. Donc c'est bien sûr trois soirées, vous avez bien compris, trois piliers du carême. La prière. Alors moi j'aimerais bien partir, puisque vous êtes là, ça me réjouit. Si vous êtes là, si vous avez un désir, peut-être même des questions, quelles sont vos questions par rapport à la prière? Prenez le temps de réfléchir. Des questions, objections, alors si des témoignages, encore mieux. Allez-y. Oui. La différence entre prière et oraison. Oui. 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 Alors donc, une question, il y a un point d'interrogation à la fin. Quelle est votre question? C'est ça. Et j'entends dans le ton de la voix que franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, c'est ça? Hein? Oui. Comment prier en tout temps, comme nous demande saint Paul. Prier sans cesse. Oui. Autre question. La différence entre prière et demande. Ce qui est bien, c'est que vous formuliez une demande, voilà, hein, avec ce fameux point d'interrogation. La différence entre prière et demande. Très bien. Oui.
Comment prier en travaillant?
Sans se taper le marteau sur le doigt, hein, c'est ça la question. Hein, c'est en étant attentif à ce qu'on fait. Oui. Il y a une place là, Marc. Pardon. Alors, j'ai pas compris le premier membre. Ou prière, concentration. Ou les deux. Oui. Oui. Est-ce qu'il faut rentrer en dedans de soi? Qu'est-ce que ça signifie rentrer en soi-même? Oui. Oui, en effet. Oui.
Quel est le théologien qui a inventé l'expression rencontrer Jésus?
Je ne sais pas si c'est un théologien, je ne sais pas. C'est une expression, je ne peux pas vous répondre. Rencontrer Jésus, je ne sais pas. En tout cas, l'évangile est rempli de ça, de toute façon. L'évangile, comprenez Saint Jean encore davantage. Oui, alors.
Parce que maintenant qu'il a disparu, quel peut bien être le sens?
Si je peux vous répondre, c'est vrai. Oui. Oui. Qu'est-ce que la prière, tout simplement? On va en parler. Ça, c'est très bien, bien sûr. La raison, c'est le béaba, oui. Et prière, non? Adoration et oraison. Très bien. Très bien. Bon. Autre question? Peut-être qu'elles viendront hein, au fur et à mesure. Bon, ça fait... Oui?
Comment arriver à faire le vide en soi?
Comment arriver à faire le vide en soi? Ça rejoint la question comment rentrer en soi, mais... Très bien. Bon, mais merci pour ces questions. Pardon? Est-ce qu'il y a une heure pour prier? Ou est-ce qu'on doit prier une heure, hein? C'est la question. Hein? Oui, non, c'est une bonne question, ça aussi. Ouais. Oui. Bonne question aussi. Intéressant. Ouais. Très bien. Alors, quatre parties, on pourrait dire les tentations par rapport à la prière. Deuxièmement, pourquoi prier? Troisièmement, qu'est-ce que prier? Quatrièmement, comment prier? D'abord, donc, en effet, les tentations par rapport à la prière. Alors, je réfléchissais par rapport à ça. Hein. Il y a d'abord les tentations communes qu'on a tous. Et la première tentation commune que nous avons tous, c'est quoi? Elle est dans votre poche actuellement. Apparemment, elle dort. Si vous vous ennuyez, vous allez la réveiller. Mais sauf qu'il y a une telle régulation sociale que vous ne le ferez pas. Mais sinon, la tentation sera bien grande. Moi, je connais ça au cinéma. Hein. Aujourd'hui, je vois des personnes qui, carrément, veut dire pendant le film, parce qu'elles s'ennuient, tirent leur téléphone. Vous savez qu'une des pratiques aujourd'hui, c'est de passer les films ou les vidéos à 1,5, voire à 2 fois la vitesse. On est en train de détruire l'attention. Il y a une génération entière dont l'attention est détruite. Simone Veil disait bien que l'attention, c'était l'attitude la plus fondamentale. On y reviendra. Avant même la prière, l'attention. L'attention. Donc il y a d'abord ça. Ce grand voleur est là. Ça, il faudrait faire une séance d'1 heure là-dessus, hein, sur la juste attitude et la reconnaissance de notre addiction. Le premier pas de la guérison pour l'alcoolisme, c'est de reconnaître qu'on est alcoolique, et c'est 50% de la guérison. Le premier pas, c'est de reconnaître qu'on est dépendant. Et mes amis, ce n'est pas parce que vous êtes sobre pendant 3 semaines que vous n'êtes pas dépendant. On vit tous des périodes de sobriété. Soyons pas naïfs. Est-ce que vous pouvez vous en passer définitivement? Ça, c'est le critère. Indépendamment du besoin, ce n'est pas la question. Donc ça, c'est le premier obstacle. Reconnaissons que, en moyenne, le jeune d'aujourd'hui, 16 à 25 ans, hein, il passe 5 heures et quart sur Internet, en l'occurrence réseau ludique et récréatif, hein, pas pour des raisons professionnelles. Hein. C'est colossal. Donc on n'a pas le temps de prier, mais c'est étonnant le temps qu'on perd. Vous savez comme moi que ce téléphone, c'est une captation voulu pour des raisons mercatiques, hein, raisons de marché, c'est une captation de notre attention, donc c'est un vol. On se laisse voler notre attention. Hein. Où est-ce qu'il est votre téléphone quand vous rentrez chez vous? Hein. Est-ce qu'il est en dehors de la chambre à coucher? Ah, ça me fait plaisir, ça, d'entendre ça. Est-ce que vous allez faire vivre les marchands de réveil matin? Parce que c'est ça la question. Hein. Le mobile doit devenir immobile, c'est-à-dire en dehors de la chambre. Et si vous n'y arrivez pas, c'est dire que vous êtes addict. Hein. Appelons les choses par leur nom. Vous êtes dépendant. Appelons-le. Avec tout ce que ça suppose comme traitement indoc, c'est votre volonté débordée. Deuxième tentation commune, la routine. C'est-à-dire la limitation à une seule forme de prière. Je crois que c'est bien d'apprendre qu'il y a différentes formes de prière. C'est super le chapelet, on pourra en reparler. Mais est-ce qu'on va changer? Et c'est important, on verra qu'il y a plusieurs formes de prière. Troisième tentation commune, l'utilitarisme. Ça, c'est très important. L'utilitarisme. Il n'y a pas de prêtre parmi vous? Non. C'est intéressant. Vous savez, bien sûr qu'on prie tous les jours, nous les prêtres, d'abord parce qu'on s'y engage. Hein. Mais une de nos tentations, nous les prêtres, c'est de transformer notre temps de prière en temps de préparation, par exemple, de topo sur la prière. Apparemment, c'est une bonne raison. Préparation de l'homélie, etc. Oui, moi, je vois très bien pour nous, les prêtres, que ça peut être une véritable tentation. Et vous-même, vous pouvez y aller pour passer d'abord un bon temps, hein, les deux adorations. Adoration, vous avez compris. Hein. Et on peut prendre ce temps-là aussi pour dire, tiens, je vais poser un discernement. Attends, vous imaginez un de vos amis qui vienne vous voir et qui viennent vous voir seulement parce que, tiens, j'ai besoin d'un petit conseil pour pouvoir discerner. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un ami? Hein? Ben c'est pareil. Si on ne va, je vais en parler, hein, si on ne va vers Dieu que pour, en effet, résoudre un problème, une question, on n'y va pas pour lui, on y va pour nous. L'utilitarisme est une très grande tentation dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à demander, mais ça veut dire que si notre prière est uniquement de la demande, je me demande si c'est vraiment une prière. Troisième tentation. Là, c'est dit. Je ne vous parle pas de pointer aux ascédiques, encore que, ce joli mot qui est décalqué du grec. Vous connaissez le sens du mot ascédie, akédia en grec. Ah, mais je vois. Alors, la paresse, c'est justement le mot avec lequel on l'a remplacé dans les sept péchés capitaux, mais c'est surtout pas la paresse. Akédia chez les Grecs, en effet, c'est une forme de tristesse spirituelle. C'est Évagre le Pontique, un père du désert, qui en parlait, hein. L'ascédie, c'est en effet la tristesse spirituelle, c'est la première définition. La deuxième, c'est le dégoût. Au fond, une espèce de... On n'a pas de goût pour. Et on ne nomme pas ça, souvent. Hein. Je vais vous citer un petit passage bien intéressant d'un beau petit livre de Romano Guardini, le grand théologien. Et tout ce qu'il écrit est toujours remarquable. Hein. Donc, vous pouvez toujours vous acheter ça les yeux fermés, mais le lire les yeux ouverts. Hein. Dans son livre, s'appelle « Initiation à la prière ». En général, l'être humain n'aime pas prier. Ah, ça veut dire quelque chose, ça. Personne n'aime prier. Vous avez du mal à prier ? Personne. C'est exactement comme la confession. Les gens viennent me voir en me disant « Ah, mon père, j'ai du mal à me confesser. » Ben oui, moi aussi. C'est jamais facile. C'est pas rigolo d'aller se confesser. Bien sûr que non. Si on a vraiment conscience de son péché, c'est humiliant, la confession. Et c'est douloureux de penser qu'on a blessé le bon Dieu. C'est normal que ça soit difficile. Et la prière, je vais y revenir, c'est difficile de prier. Donc si vous pensez qu'il y a vous seul pour qui c'est difficile, non, on n'en parle jamais de ça. C'est difficile pour tout le monde. Notre grand Guardini le dit. Donc l'homme éprouve facilement à l'égard de la prière de l'ennui, de l'embarras, de la répugnance, et à proprement parler de l'hostilité. Elle y va carrément, hein. Ce grand spirituel qui est Guardini. Tout le reste lui semble alors plus attirant et plus important. Que c'est bien vu, ça. C'est étonnant, hein, vous allez prier, tout à coup, oh, c'est urgent d'écrire un courrier que pourtant vous repoussez depuis une semaine. Comment ça se fait? Tout à coup, les choses les plus urgentes, ça passe au-dessus de la pile. Il dit qu'il n'a pas le temps. Bien sûr, hein, il a le temps pour son téléphone, mais pas le temps de prier. Que ceci ou cela est urgent. Et pourtant, dès qu'il a abandonné la prière sous ce prétexte, il est capable de faire les choses les plus superflues. Que c'est bien vu, ça. Que c'est bien vu. Il faut que l'homme cesse de tromper Dieu et de se tromper soi-même. C'est difficile pour tout le monde, frères et sœurs. Il y a un paragraphe du catéchisme de l'Église catholique qui dit le combat de la prière. Même mes chères sœurs qui sont là, si on les interrogeait, hein, eh bien, elles vous diraient aussi que la prière, c'est souvent difficile. Je me trompe ? Pas du tout. Alors, ça fait 50 ans que je prie. Bien sûr que c'est difficile la prière. Ça ne veut pas dire que je ne prie pas tous les jours, mais bien sûr, on va revenir pourquoi. Donc ça, c'est les tentations communes. Mais après ça, il y a des tentations en fonction des caractères. L'homme d'action. Il y en a un certain nombre, l'homme ou la femme d'action, bien sûr. Hein. Il y en a un certain nombre d'entre vous. Oh, mais quel temps perdu que la prière. Hein. Ça serait tellement mieux, veut dire, d'aller aider, d'aller sauver le monde, etc. Ça, c'est la tentation propre de l'homme d'action qui a vraiment l'impression que la prière, ça retarde le moment important où on peut vraiment être efficace, où on pourra être les mains du bon Dieu, les pieds du bon Dieu et le cœur du bon Dieu. Sauf que quand on fait ça, bien évidemment, on oublie que celui qui agit vraiment, c'est le bon Dieu en nous. Hein. Et on a l'impression que c'est nous qui allons sauver le monde. Entre nous, ça ne marche pas très bien quand même quand on est tout seul. Hein. Donc ça, c'est la tentation de l'homme d'action. La tentation du mental, l'homme de réflexion. Ça me ressemble assez bien. C'est transformer la prière en moment de réflexion. On va penser à Dieu. On va se prendre un bon bouquin. Bien sûr, on va prendre un bouquin de théologie, ça va de soi. Hein, ou bien sinon, on va aller à une messe qu'on aime bien, on va écouter une homélie qu'on aime bien. Hein, et comme ça nous touche, en plus, on a l'impression qu'on se convertit. Autre chose est d'être touché, autre chose de vraiment changer. Donc, là, c'est une autre tentation, hein, de faire de là un moment où je vais réfléchir, alors que prier, c'est pas beaucoup penser, c'est beaucoup aimer, ce qui est bien différent. C'est pas avoir des nobles pensées. Et puis la tentation de l'homme d'émotion. Hein. Et quand je dis ça, l'action, la réflexion, l'émotion, c'est des bonnes choses. Hein. Mais là encore, on va plutôt chercher des bons moments. On va juger sa prière et la jauger en fonction de ce qu'on ressent. Alors je vais y revenir. La prière, on peut très bien ne rien ressentir dans la prière. Et c'est même le plus souvent le cas. C'est même le plus souvent le cas. Donc si on est fait, et vous voyez bien que c'est trois manières de faire, au fond, on est au centre. Et puis, je me suis même amusé à me dire, tiens, qu'est-ce que serait la prière en fonction des écosystèmes cathos ? La prière du progressiste. Ben là encore, c'est typiquement l'action, hein, de refaire des maraudes, de refaire plein de choses. Je trouve Dieu dans le prochain. Eh oui, Mère Teresa avait bien raison. Hein. Et Dieu sait que Mère Teresa, elle demandait à ses sœurs d'aller retrouver Jésus dans le pauvre. Je me dis, mais mes amis, pour trouver Jésus dans le pauvre, trouvez-le dans le pauvre par excellence, d'abord qu'est Jésus dans l'adoration. L'adoration conduit à la compassion. Donc là, passer en effet, du social au théologal, pour revenir après ça, du théologal au social. La tentation du tradit. Ah, j'ai bien fait ma prière, j'aime beaucoup cette formule-là. J'ai fait ma prière, vous savez, c'est comme les gens disent, j'ai fait une expo. Ah bon, c'est vous qui l'avez monté l'expo, hein? Je vais visiter une expo. Le mot faire, c'est fou comme on le met à toutes les sauces. Hein? J'ai pas fait ma prière, hein? Je l'ai reçu du bon Dieu, j'ai prié. Hein? C'est bien différent, hein? J'ai reçu pour me redonner. Et on va bien réciter ses prières aussi, ça peut être le modèle tradit aussi. On a bien récité telle ou telle prière. Et à chaque fois, c'est comme le premier cas. Est-ce que mon cœur est donné à Dieu ? C'est ça la question. On peut donc être formel, les pharisiens. Et puis, troisième écosystème que je connais bien, l'écosystème chacha, le renouveau. Hein, où là, ça fait 45 ans que je suis dans les manuels. Hein, donc là, ça va. Comment est-ce qu'on pourrait la caractériser ? Oui, ça peut être une certaine passivité. Une certaine passivité dans la prière. Entre tout, puis voilà. Seigneur, je suis là, un peu comme une bûche. Hein. Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Bon, très bien, on est ravis de ce verset. Et finalement, on va oublier quelque chose de très important. La prière, c'est une multiplication de petits actes. La prière, c'est une multiplication de petits actes. N'allez pas vous imaginer que dans la prière, vous allez tout à coup avoir comme une espèce de coup de téléphone intérieur. Allô ? Je suis Jésus, j'ai une mission pour toi, une mission impossible, bien sûr. Non, mes amis, ça c'est dans les films, ça. Hein. Ça, non, il n'y a pas de parole intérieure tout à coup qui va nous arriver. C'est les multiples petits actes que je pose intérieurement, sur lesquels je vais revenir. Donc ça, c'est ces multiples tentations. Si vous vous retrouvez dans aucune d'entre elles, soit vous êtes saint, il n'y a pas besoin de rester, vous pouvez au contraire prendre le micro et parler à ma place, hein. Je suis ravi. Hein. Soit sinon, c'est un peu inquiétant. Si vous n'avez aucune de ces tentations. Alors, deuxièmement, pourquoi prier ? Je ne vais pas être trop long. Hein. Bon, vous savez, j'espère bien que vous désirez être saint. Est-ce que vous connaissez un seul saint qui ne prie pas et qui ne prie pas beaucoup ? Vous en connaissez ? Non, je n'en connais pas, moi. Hein. Si, j'espère que vous choisissez les bons modèles. Hein. Ben, si vous prenez ces modèles-là, vous dire... Et quand vous prenez, et Dieu sait qu'il y a des hommes d'action, quand vous prenez, je ne sais pas moi, un Maximilien Kolb, tiens, on prend un saint parisien, le bienheureux Daniel Brottier, super prière, vous voyez qui c'est, hein, fondateur des orphelins apprentis d'Auteuil, superbe figure, hein, qui a été sauvé par la petite Thérèse pendant la première guerre mondiale. Quand on voit ce qu'il faisait, il disait, si vous voulez vraiment avoir une relique de moi, disait-il, prenez mon porte-plume. Le nombre de dizaines de milliers de lettres qu'il a écrites pour remercier tous les donateurs. Il se couchait après tout le monde, comme le Père Kolb. Le Père Kolb, c'était le premier levé, le dernier levé. Toutes ces personnes qui étaient des hommes d'action, plus, étaient tous d'abord des hommes de prière. On disait, le Père Brottier, quand on le rencontrait, on avait parfois un peu l'impression qu'il était comme un peu absent, quand on parlait avec lui. En fait, il n'était pas absent. C'est que vous parliez avec lui, mais au moment où vous adressiez à lui, il y avait une petite partie de lui-même qui était tournée vers le bon Dieu, qui fait qu'avant de vous répondre, il était d'abord tourné vers le bon Dieu. Il était donc présent. une espèce de stéréo, présent à l'autre et présent aussi à Dieu. Ça, c'est ce que fait la prière continuelle dans le cœur. Il y a un moment, en effet, comme nos anges gardiens, tourner à la fois vers Dieu et tourner vers l'autre. Donc, pourquoi prier ? Ben, les saints le font, et puis surtout par excellence, Jésus. Jésus qui est pourtant en permanence uni à son Père, il avait besoin d'avoir de longs moments de prière dans la nuit. C'est frappant, ça. Très frappant, hein. De voir Jésus. C'est très impressionnant. Ça me fait penser à... Quelqu'un m'avait raconté, en 1980, le premier voyage de Saint-Jean-Paul II en France, il était venu à la rue du Bac. D'ailleurs, à la rue du Bac, il avait rencontré les religieuses qui lui avaient fait un peu de café. « Ah, mes sœurs, c'est du bon café de religieuses. » Ah, elles étaient très heureuses. « C'est fait avec beaucoup d'amour et très peu de café. » Et Jean-Paul II, donc on avait installé un prie-Dieu, et quelqu'un qui était là, qui était très très proche, l'avait vu en train de prier. Impressionnant. Impressionnant sa présence intérieure au mystère de Dieu. De fait, cet homme, cet immense saint, Benoît XVI l'appelait, il n'y a que trois papes, deux papes qu'on appelle ainsi. Hein. Il appelait Jean-Paul II le Grand. Et ce qui est très impressionnant chez lui, en effet, c'est l'intensité de sa prière. Quelqu'un me racontait, il y avait la messe le matin à 7h dans la chapelle pontificale. Il est arrivé un peu plus tôt. Il avait vu allongé par terre, parfois on fait ça, les prêtres polonais parfois font ça, allongé par terre en train de supplier. Mais très, très, très forte. Et il avait lu dans le journal quelque temps après que c'était le moment où un certain nombre de théologiens, dix théologiens allemands, Wir sind die Kirche, nous sommes l'Église, hein, qui en effet avaient attaqué tellement durement le pape, et ils suppliaient pour eux. Suppliaient pour eux. Vos préoccupations, mes amis, transformez-les en supplications. Vos préoccupations, transformez-les en supplications. Ou mieux que ça, vos préoccupations, ce qui vous préoccupe, Dieu s'en occupe. Est-ce que vous le croyez, ça? Ce qui vous préoccupe, Dieu s'en occupe. Regardez combien tellement de choses vous rongent, nous rongent. Ça, c'est un des effets de la prière. C'est Jean-Paul II, c'est très, très frappant. Hein. Et ne croyons pas que c'était facile pour lui. Hein. Ce bel homme, ce sportif de Dieu, comme l'avait appelé Marty quand il était venu en France. Hein. Et... Quand il a connu ce qui est une des hypothèses, c'est une des conséquences de l'attentat d'Ali Aqsa du 13 mai 1981, une des conséquences, ça a été ce fameux Parkinson. Et vous imaginez, un des signes les plus douloureux dans le Parkinson, c'est ce qu'on appelle le visage marmoré, hein, le fait que le visage n'exprime plus rien, comme du marbre. Quand il voyait ce visage, hein, sous ces écrans 10 mètres de haut, avec sa lèvre un peu incontinente, comme ça, qui bavait, et qui était son visage complètement figé, lui-même a dû apprendre à accepter de se voir et que les autres le voient. Il dit que ça a été un chemin spirituel pour lui, que ça a été difficile. Donc ne croyons pas qu'il est né saint. C'était tout un chemin. Par contre, c'est tout son don quotidien qui l'a amené à cette extraordinaire offrande de lui-même qui a une telle fécondité pour l'Église et pour le monde. Donc, homme de. Voilà typiquement. Ah, si un homme d'action, c'est bien lui. Bon, chez lui, il y a tout. Hein. Toutes les fées sont penchées sur son berceau. Hein. C'est autant un poète qu'un philosophe, qu'un homme d'action, un homme politique. Hein. Mais, vous voyez, malgré les 10 hommes qu'il y a dans cet homme qui est Jean-Paul II, la prière était au cœur de tout. Comme, pas François pareil. Hein. Quand j'étais à la Domus Santa Marta, hein, il priait tous les jours, autant le matin que dans l'après-midi, puis il y a longuement une heure, donc tous les papes, Benoît XVI pareil, il allait longuement dans les jardins du Vatican. Tous ces hommes qui ont en charge 1 milliard 200 millions de catholiques, avec tout ce que ça suppose, prenaient d'abord un long temps pour Dieu. Ça ne donne pas envie, ça? Moi, quand je vois ces exemples, ouh, hein. Mais c'est vrai que ça suppose de lâcher plein de choses, hein, sur notre prétendue efficacité. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, il y en aurait plein d'autres. Hein. Étrange comme mes idées changent quand je les prie. Qu'est-ce qui dit ça? Oui, c'est quelqu'un qui était par Monseigneur Tomaso. ce que dit Jean-Paul II dans Novo Millennium Inunte, la charte pour le troisième millénaire, là où le principe de la prière n'est pas respecté, on n'a pas à s'étonner si les projets pastoraux échouent et s'il reste à l'intérieur un sentiment de frustration et d'affliction. C'est clair. Alors, qu'est-ce que la prière ? Troisièmement, qu'est-ce que la prière ? On pourrait multiplier les exemples. Alors, la prière, c'est intéressant d'aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique. Il y a toute la quatrième prière, partie, c'est sur la prière. Vous avez une longue partie. Il n'y a que quatre parties, donc ça montre bien l'importance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux définitions. Pas une, mais deux. Ils n'ont pas voulu choisir. La première, elle est empruntée à Saint Jean Damascène, c'est un grand père de l'Église grecque du 7e siècle, dans son livre La foi orthodoxe. La prière est une ascension de l'esprit vers Dieu. Ça me parle. Ça nous parle aussi à nous les hommes. Il y a une espèce de dynamisme ascendant. Ça, c'est une symbolique très masculine, l'esprit. Et puis, je vois une deuxième définition d'une femme, de prière si l'on est une, la petite Thérèse, Sainte Thérèse enfant Jésus. Et en effet, il cite un passage du manuscrit C. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. Un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Superbe. C'est passionnant parce que, d'abord, une femme, un homme, donc c'est intéressant. On voit bien qu'il y a une manière différente de prier. Il y en a une, en effet, on voit bien, c'est une ascension symbolique masculine de l'esprit. L'autre, c'est une prière du cœur, c'est un acte du cœur. Une femme qui le dit. Et là, ce n'est pas la symbolique ascendante ou verticale, c'est un symbolique concentrique, c'est rentrer à l'intérieur de soi. L'une ou l'autre vous touche. Prenez l'une ou l'autre et faites-en votre miel. Ou bien, une qui en quelque sorte rejoint les deux, c'est ce que dit Benoît XVI dans une audience générale, 14 décembre 2011. La prière chrétienne se présente comme un dialogue personnel. Intime, un dialogue personnel, intime, dialogue personnel, intime et profond entre l'homme et Dieu. Dialogue personnel, intime et profond entre l'homme et Dieu. Voilà, c'est ça. La prière, c'est tout simplement ce cœur à cœur, ce tête à tête, c'est ce moment où vous rencontrez celui qui est toujours présent. C'est ce moment où vous rencontrez celui qui, c'est le bon Dieu. Vous avez remarqué chez les icônes, vous savez tous ce que c'est qu'une icône, vous avez remarqué, c'est Nicolas de Cuse qui dit ça dans un livre sur les icônes, Nicolas de Cuse, c'est un penseur du XVIe siècle, quand il y a une icône, c'est très frappant, quand vous rentrez, l'icône vous a déjà vu. C'est comme dans la Panthère des Neiges. Il pensait la voir et en fait c'était la panthère qu'il avait déjà vue. Rappelez-vous dans ce très beau film. L'icône vous a déjà vu. Dieu nous a depuis toujours déjà vu. Papa, le regard de Sartre qui juge et qui fait honte. C'est ce regard enveloppant d'amour. Et puis, nous dit aussi Nicolas de Cuse, où que vous vous promeniez dans la pièce, l'icône, c'est comme si elle vous suivait du regard. Il n'y a aucun moment où elle vous lâche. C'est ça, ce dialogue d'amour. Donc, quand vous descendez... Et aujourd'hui, c'est super que vous veniez pour une conférence. Aujourd'hui, quand est-ce que vous avez dit au bon Dieu, au Père, au Fils, à l'Esprit Saint, quand est-ce que vous avez dit que vous l'aimiez ? Vous l'avez dit, bien sûr. Allez, on va fermer les yeux. Si vous ne l'avez pas dit, comme ça, vous avez le temps de lui dire. Je vais vous faire un petit aveu. Quand je commence ma journée, je dis au Père que je l'aime, je dis au Fils que je l'aime et je dis à l'Esprit Saint que je l'aime. Nous les chrétiens, notre prière, elle est personnelle, elle est trinitaire. C'est pas seulement à Dieu. Les musulmans, les juifs en font autant. La prière du chrétien, il y a trois personnes dans la Trinité, elle s'adresse à chacune des personnes. Là, vous voyez, quand vous faites ça, vous êtes en connexion immédiate avec Dieu. Il n'y a pas à chercher plus que cela. Et ça, autant que vous le pouvez. La prière, c'est d'abord ça. Hein. Prendre ce temps. Et c'est d'abord ça. Hein. Ce n'est pas d'abord réciter des choses, c'est d'abord hein, lui qui vous est intensément présent, comment, à quel niveau de votre être vous allez lui être présent. Est-ce que c'est avec votre tête, simplement, vous réfléchissez hein. Est-ce que c'est si vous ressentez, ou est-ce que ça va être votre cœur hein. Je suis, voilà, je t'aime, je me donne à toi, je me redonne à toi, Jésus. Hein. Tout est donné à moi, à mon être, je te le réoriente vers toi. Donc, quelle est la partie de notre être que nous allons tourner vers lui? Et vous voyez bien que ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas plus démocratique. Ce n'est pas réservé à une petite élite, ce n'est pas réservé aux consacrés. Chacun de nous peut le faire, et peut le faire tout de suite, à chaque instant. Hein. Ça, c'est le cœur de la prière. Alors, quand j'ai dit ça, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs formes de prière. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme forme de prière? Allez, je vous pose la question avant que vous endormiez. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme forme de prière? La louange. Bravo. Pardon? La prière de demande, absolument. Le louange et remerciement, c'est un petit peu différent, on reviendra sur la différence, tout à fait. Le pardon, ah ben bravo, en général, on n'y pense jamais. Merci, c'est important, tout à fait. Le pardon, exactement. Qu'est-ce qu'il y a comme autre forme de prière? Pardon? Alors, c'est la demande, l'intercession. Alors, ça, c'est la louange, l'eucharistie, c'est l'action de grâce. Comment? Alors, l'adoration, exactement. C'est la quatrième forme qu'on oublie, l'adoration. Et il y en a quand même une cinquième. Ça, c'est la répartition classique. La répartition classique, c'est en effet, c'est l'adoration, c'est la demande, la louange et le pardon. Les termes techniques, c'est eucharistique, latretique. Il y a des noms, on se moque un peu des noms, c'est pas important. Mais donc, ça, c'est les quatre formes classiques. Quatre formes classiques, c'est donc adoration, demande, action de grâce et pardon. C'est intéressant parce que réfléchissez à votre prière. Souvent, on coche une ou l'autre case, on ne pense pas aux quatre. Souvent, on est très très bon pour la demande, un peu moins pour le remerciement. Hein. Alors, je sais pas, moi, quand on voit l'augmentation des ventes de cierges au moment où s'approche le baccalauréat, hein, théoriquement, je pense qu'il y a 80-90% de réussite. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait une augmentation de nombre de cierges après les réussites au baccalauréat. Ça. Donc, le syndrome des 10 lépreux nous touche bien. On est très fort pour demander, très peu pour remercier. Et je pense qu'il y a une cinquième forme de prière. Oui. Alors, c'est vrai que là, on parle de la prière individuelle, c'est juste. Là, il faudrait ensuite parler de la prière collective. Et donc, dans la prière collective, il y a la prière liturgique, comme la messe, et il y a aussi, en effet, la liturgie des heures, qui fait partie de la prière liturgique, que nous, les prêtres, nous sommes engagés à la dire. Hein, c'est une vingtaine de pages tous les jours, et ça sanctifie les différentes heures de la journée. Ça, j'aime beaucoup, parce que hein, il y a cinq moments. Pardon. Alors, intercession, c'est la demande. C'est la demande, hein. Pardon. Alors, c'est vrai que c'est une autre distinction. On distingue en effet entre prière mentale et prière vocale. Hein, c'est encore une autre distinction. Là, c'est plutôt la manière de prier. Faut se dire que, d'abord, dans l'immense majorité des religions, la prière, elle est vocale. Et nous, dans notre histoire de l'Église, la prière a été vocale jusqu'au XVIe siècle. Quelle est celle qui a introduit la prière mentale, c'est-à-dire la prière silencieuse? C'est Sainte Thérèse d'Avila, exactement. Très intéressant de voir que c'est apparu au seuil de la modernité. C'est elle qui donnait comme conseil de fermer les yeux pour prier, hein, pour davantage rentrer à l'intérieur de soi. On va en reparler, c'était une des questions. Donc nous avons ces quatre prières et nous avons une cinquième, que je trouve importante, la prière d'abandon. Moi j'aime beaucoup, il faut l'utiliser bien, la prière par exemple de Don Dolindo. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est à toi d'y penser. C'est pas bon débarras. C'est vraiment un acte de confiance. Je fais toute ma... Par rapport au quiétisme, qui est une vraie tentation, c'est... Moi, je rajoute une première formule. Jésus, j'ai fait ma part. Ça, c'est important, c'est pas à pas se débarrasser. Deuxièmement, j'ai confiance en toi. Et troisièmement, c'est à toi d'y penser. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la préoccupation. Je peux vous dire, moi, cette prière, moi, je vois bien, quand je la dis dans mon cœur, elle me transforme le cœur. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai vraiment confiance en toi. Et je vois bien dans ma vie que tout ce que tu as fait, et la vie des autres aussi, hein, c'est à toi d'y penser. Je sais bien que... Vous imaginez, nous, on entend... Les personnes qu'on aime, on entend leurs demandes. Vous imaginez le cœur infiniment délicat de Dieu. Il entend tout. Il sait tout. Arrêtons de rabâcher comme des païens. Ah, j'aimerais tellement que mon fils se marie. Ah, puis on va insister. On va faire des pèlerinages pour ça, pour que mes petits-fils soient baptisés, etc. Mais on répète et on rabâche comme des païens. C'est bon, on l'a dit, le bon Dieu a entendu. On passe à autre chose. Est-ce qu'on a confiance en Dieu? Dans le Père, riche en miséricorde. Ephésiens 2, 4. Hein. Donc, alors, vous voyez, donc, ces quatre formes. Oui. Alors, bien sûr que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas à intercéder et supplier, mais est-ce que je le fais dans un esprit de confiance? Sainte Monique, en effet, ce que disait Saint Ambroise de Milan, hein, les larmes de Monique nous ont valu la conversion d'Augustin. Mais Sainte Monique l'a toujours fait en confiance. Il sait bien qu'il y a des choses qu'on obtient que dans la supplication, donc ça c'est certain, mais il y a une façon de rabâcher et au fond de nous-mêmes, on n'a pas totalement confiance que Dieu a entendu. Donc c'est vraiment l'attitude intérieure. Soyons bien clairs sur l'intention qui habite notre cœur. Le bon Dieu, il connaît le fond des cœurs. Il sait ce qui se passe en nous. Oui. Je pense que... Alors c'est très variable, hein, mais regardez dans l'Évangile. Très frappant de voir que l'exemple de la Syrophénicienne, elle a vraiment supplié, elle cassait les pieds. Les apôtres disaient, mais Jésus, attends, réponds-lui parce que tellement elle nous casse les pieds. On imagine tellement bien cette scène-là dans le Proche-Orient. Hein. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui supplient et avec une espèce de supplication insistante. C'est d'abord c'est très biblique. Hein. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qu'est-ce que c'est beau, ça? Est-ce que parfois vous criez? Pas crier contre votre conjoint, ça c'est facile. Hein. Hein, crier contre les autres, ça, ou sa supérieure, etc. Ça, on sait faire. Hein. Mais c'est frappant, c'est pas un pauvre pri, c'est un pauvre cri. Donc c'est vrai qu'il y a des supplications. En fait, elles nous transforment profondément le cœur. Le fait de durer dans la prière, c'est ce que dit saint Augustin en permanence. Hein. La prière ne change pas Dieu, elle me change moi. Il y a des fois, en effet, ma supplication persévérante me transforme le cœur. Vous voyez, cette Syrophénicienne, c'est le cas. Vous voyez, quand votre prière, vous le sentez intérieurement, il y a des fois, le bon Dieu demande vraiment qu'on supplie. Est-ce qu'on supplie vraiment pour que ces lois iniques ne passent pas en France? C'est des lois iniques, il faut les appeler par leur nom. Des lois assassines. Là, le bon Dieu, il a besoin de notre supplie. Vous voyez, si vous prenez l'exemple, pourquoi est-ce que l'Autriche n'est pas tombée sous la botte des communistes? C'est très frappant, ça. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé quasiment en Europe centrale, et ses proches Europe centrale, elle aurait dû tomber. Moi, j'ai appris ça parce que j'ai une cousine, une vieille cousine, maintenant elle est morte, qui habitait à Innsbruck, à Vienne. Elle m'a expliqué que 1/10 de la population autrichienne s'est accrochée à son chapelet pendant 9 ans. Et ils ont obtenu ça par cette prière instante. Ce que vous voyez à l'île Bouchard, ce que la Vierge Marie, qui s'appelle Notre-Dame de la Prière, entre nous, est-ce que vous êtes allé un jour à l'île Bouchard? Allez-y, mes amis. C'est un des hauts lieux. Pas le temps de vous raconter tout ce qu'il y a à raconter. Veut dire, c'est ce qui a évité à la France de devenir communiste. C'est ce qui a permis à la France de ne pas devenir communiste. À l'époque, elle allait le devenir. Et c'est la Vierge Marie qui est passée par la prière instante des enfants. Ces enfants qui étaient là. Elle leur a appris à prier progressivement. Prenez le temps de découvrir, hein, l'île Bouchard, ça vaut vraiment la peine. Donc ça montre à quel point il y a des fois où on doit juste demander au bon Dieu parce qu'on lui fait confiance, et des fois, il nous faut véritablement supplier dans un esprit de confiance et d'abandon. Hein, le répondu répondra. Bah, j'ai appris ça de ma grand-mère. Hein. Ma grand-mère, j'ai appris d'elle, hein. Elle priait pour la famille, elle priait jusqu'à ce qu'elle ait un signe intérieur certain que l'âme de la famille pour qui elle priait était partie au ciel. Elle m'a expliqué une fois, elle a prié pendant un an et demi. Ça y est, bon, notamment, il passait par des songes. Il dit, ça y est, c'est bon. Elle me dit, ça, Pascal, toi, maintenant, ça, je sais. Hein, je sens que tante Nini, ça y est, elle est partie, elle est au ciel. Je le sais maintenant, donc j'arrête de prier parce que maintenant, elle est au ciel. Qu'est-ce que c'est beau. Mon grand-père était devant la télévision. Elle était là, entourée par tout. Hein, elle priait plus d'une heure tous les soirs. Hein. Qu'est-ce que c'était beau, cette supplication. Hein, très fidèle. Donc, vous voyez, donc, notre prière, elle commence par l'adoration. Hein. De même, quand je rencontre quelqu'un, je lui dis bonjour. L'équivalent du bonjour, c'est l'adoration. C'est pour ça qu'on s'incline, on se met à genoux. Tant qu'on peut, on se met à genoux. Vous connaissez cette étonnance, hein. Il y a une apparition un jour, c'est un père du désert, il avait vu le démon. Le démon n'a pas de genoux. Il ne plie pas le genou. Oui, c'est quand on monte dans les oraisons là, de carême, inclinez-vous à la fin. Il y a un certain nucrède, hein, on a du mal à s'incliner. Hein. C'est le corps pris, hein, ce que disait Pascal, hein, le corps pris. L'agenouillement, ça nous aide. Le bel agenouillement droit dont parlait Peggy, hein, très impressionnant. Hein, cette personne qui disait, en effet, quand je vois mon père prier, mon père qui me paraissait plus grand que tout quand j'étais enfant, si mon père s'agenouille, c'est qu'il y a quelqu'un qui est vraiment plus grand que mon père. Elle a découvert Dieu en voyant l'attitude de prière de leur père qui s'agenouillait. Donc, l'adoration, la demande, hein, la prière de demande. Il y avait une question sur la différence entre prière et demande. Donc, demande, c'est une des quatre formes de prière, mais ce n'est pas la seule. Hein. En demandant des choses précises, mes amis, demandez des choses précises. C'est bien de demander la paix dans le monde. Hein. Mais d'avoir des prières précises, plus la prière est précise et plus nous pouvons voir que Dieu répond. Quand on demande des choses précises, et surtout n'oublions pas, ça sera la troisième forme de prière, de remercier. Ayez donc des prières. Moi, j'ai remarqué que souvent la prière, c'est, si je parlais en logique, je dirais, c'est comme une espèce de phrase avec un sujet sans objet. Voilà. Je te prie pour un tel. Oui, ok, ça c'est le sujet. Mais je te prie pour quoi ? Ben je prie pour que, en effet, telle chose arrive sur tel point. Soyez précis et vous verrez que vos prières sont exaucées. Tant qu'elles seront vagues et générales, vous ne les verrez pas. Et plus vous les verrez exaucées, plus ça nourrira votre confiance en étant précis. Et bien sûr, alors, l'action de grâce, alors, il y a deux choses. Hein. Il y a l'action de grâce et... l'action de grâce, c'est un remerciement et la louange. La louange, c'est gratuit. L'action de grâce a un objet précis. Hein. Donc on remercie pour quelque chose, ça c'est l'action de grâce. La louange, c'est gratuit. Je loue Dieu parce qu'il est bon. Est-ce que ça vous arrive de louer Dieu ? Surtout en ce moment, aujourd'hui, vous avez vu la belle journée qu'on avait. Hein. Lever les yeux, ça aide. Moi, je fais le lever les yeux, ça m'aide à prier. Le corps prie, hein, ça c'est clair, la fameuse mantre religieuse. Hein. On appelle montre le juste à cause du geste, hein, vous le savez. Et enfin, pardon. Prendre le temps de prier. Si vous ne savez pas comment demander pardon, prenez le psaume 51. C'est le psaume de David après hein, le crime atroce qu'il a commis contre Our hein, par rapport à Bethsabée. Ça nous aide. Hein, Alors, parlons. Enfin, arrivons au comment. Le comment. Pardon, il y a une question ? Non. Alors, le comment. Alors, là, d'abord, une des questions que vous avez posées qui est tellement intéressante. Comment faire le vide en soi ? Comment rentrer en soi-même ? Longtemps, j'ai entendu, à l'extérieur, c'est le brouhaha, rentre à l'intérieur et tu verras, c'est le silence. Ben, je vais vous dire, pendant des dizaines d'années, quand je rentre en moi-même, ça fait encore plus de bruit qu'à l'extérieur. Donc ça m'a culpabilisé très longtemps. Je dis, oh, comment font certains pour être en silence dans la prière ? C'est extraordinaire. Comment ils font pour faire ce qu'ils appellent le vide ? Jusqu'au jour, j'ai lu un bouquin de méditation en pleine conscience qui m'a expliqué la chose suivante qui a été une révélation pour moi. L'être humain est traversé en permanence par un quadruple flux. un flux d'images. Des images qui passent, hein. Images visuelles, auditives, tactiles, etc. Deuxièmement, un flux de pensées, en permanence traversé par quantité de pensées, c'est pas pareil que les images. Troisièmement, des flux d'émotions. En permanence, il y a plein d'émotions en nous. Et quatrièmement, ce qu'on sait le moins, des inclinations à l'action. Nous sommes inclinés à... Hein, c'est étonnant quand on prie, tout à coup, on est poussé à faire quelque chose, tout à coup, il y a plein de choses urgentes qui arrivent, mais surtout, on a une espèce de motion. Et ça, ces quatre flux sont permanents. Ils n'existeraient pas en nous, nous ne serions pas vivants. Donc ne rêvez pas qu'ils disparaissent. C'est autant de signes de vie. Donc vous n'allez pas en rentrant en vous-même faire disparaître tout ça du tout. Pas possible. Ces flux nous habitent. Alors, sachant ça, donc, il faudrait écrire un traité contre le vide, dire le vide, ça n'existe pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments particuliers de grâce ou de silence, mais c'est des moments particuliers. Alors, soyons bien clairs. Là, on sera toujours traversé par ça. Donc, quand on me dit « Mon Père, c'est tellement difficile, je suis distrait », nous sommes tous distraits dans la prière. Tous. Donc, arrêtez de me dire « Oh, mon Père, mais c'est terrible, je suis toujours distrait. » Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la prière? Je parlais, moi, avec un grand priant qui était un ermite, ça faisait des années qu'il... Donc, 8 heures par jour, j'aime Pascal, mais oui, la distraction, je connais ça en permanence. Donc, comment est-ce que dans la prière, je pose ces petits actes théologaux? Je pose des petits actes théologaux, concrètement, ça veut dire quoi? Des petits actes d'union à Dieu. Jésus, je crois en toi. Théologal, vous savez ce que c'est foi, espérance, charité. Jésus, je crois en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime, augmente mon peu de charité, mon peu d'espérance, mon peu de foi. Ça, ce sont ces petits actes qui nous unissent à Dieu. C'est d'abord ça la prière. Multiplier ces petits actes, comme Saint Bernard, hein, Saint Bernard de Clairvaux, posait souvent la question, Saint Bernard, t'es là pour qui? Pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, Seigneur. Donc, vous voyez, le cœur de la prière, c'est pour toi, Seigneur. Donc, vous voyez, c'est tout sauf une espèce de repli sur soi. Hein, c'est un moment où vous êtes tourné. Et dès que vous commencez... Il y a des distractions. Hein, mais dès que vous en prenez conscience, au lieu de lâcher prise, etc., non, c'est pour ça qu'il y a un combat de la prière. Non, Jésus, hop, geste ça de côté. Je me tourne vers toi. Je suis là pour toi. Et vous multipliez ces petits actes. Et vous mesurez combien est-ce qu'il y en a dans une prière, hein. Tous ces petits moments où je redresse mon attention, exactement comme si vous étiez face à quelqu'un, sauf que justement, je vais y revenir, vous ne voyez pas la personne. C'est clair que vous n'avez pas beaucoup de distractions quand vous allez au cinéma. Comment ça se fait qu'il y en a autant aussi dans la prière et si peu au cinéma? Pourquoi? C'est parce que Dieu, vous êtes présent à lui par la foi. Au cinéma ou là actuellement, même si vous êtes tenté un peu de dormir parce que c'est long et puis il fait chaud, hein. Là vous voyez, dans la prière je ne vois pas. C'est ça. Donc la prière c'est dans la foi, donc vous ne voyez pas et Dieu sait très bien que vous ne voyez pas. Et s'il vous laisse faire voir, il se ferait voir. Donc s'il ne se fait pas voir, c'est qu'en effet, il vous demande cet acte de présence à lui-même. Et ces actes de présence, ce sont ces actes théologaux. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? L'état habituel de la prière, c'est la sécheresse. Ah, ça va à la fois vous décomplexer. Vous êtes tous dans la sécheresse? Oui, absolument. Je vais vous apprendre quelque chose. La petite Thérèse, et Dieu sait que la petite Thérèse, comme disait le pape Pie XI, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Hein, la plus grande sainte des temps modernes, c'est quand même pas rien. 9 ans au Carmel, c'est 2 heures de prière par jour, 9 ans de sécheresse. Soyons très clairs, la petite Thérèse, c'est 9 ans de sécheresse pendant ses 2 heures quotidiennes de prière à genoux. Elle vivait des moments d'oraison, même elle avait des moments de retraite, parce que même au Carmel, on fait de la retraite. On fait des retraites pendant une semaine. Et pendant les retraites, qui sont les moments les plus intenses, elle était encore davantage dans l'aridité. Ça vous étonne, hein, tout ce que je suis en train de vous dire là. Ça vous montre une chose tellement importante, vous voyez. Donc, la profondeur de l'union à Dieu ne se mesure pas du tout au ressenti. Du tout. Et donc, pendant ces moments-là, la petite Thérèse donc, multipliait ses petits actes, ça c'est très carmélitain, hein, par lesquels elle s'unissait au bon Dieu, elle posait ses petits actes. Quand vous vivez cette prière de façon fidèle, on va y revenir sur la question du temps et tout ça, hein, quand vous vivez ça de façon fidèle, les fruits, vous ne les cueillez pas pendant la prière, mais en dehors de la prière. Ça, c'est important. Si vous cherchez à cueillir les fruits pendant la prière, que ce soit un moment consolant, vous, c'est comme si vous disiez au bon Dieu ce qu'il doit faire. S'il veut que votre oraison soit sèche, elle est sèche. Jésus, je ne suis pas là pour moi, je ne suis pas là pour trouver un moment de plaisir, je suis d'abord là pour toi. Et bien sûr que le bon Dieu va nous consoler à tel ou tel moment, bien sûr qu'il y aura des moments de grâce particuliers, mais vous ne savez pas quand ni comment, et c'est donné comme un surcroît. Mais vous voyez, vous multipliez ces petits actes de présence à Dieu. Et vous voyez pourquoi c'est tellement difficile de prier, et pourquoi tous, à un moment ou l'autre, on est tenté et on arrête. Et on arrête, osons le dire, on arrête parce que finalement, on se cherche soi-même. On voudrait que ce soit un moment consolant. Je suis désolé, c'est pas ça la question. Je ne suis pas là pour être consolé, je suis d'abord là pour toi, Seigneur. Je cherche ton visage, je suis là pour toi, je prends la parole de Dieu, je la médite. Hein. Alors, donc ça c'est le cœur, hein, c'est cette gratuité. Hein. Le cœur de la prière, c'est la gratuité. Je suis là pour toi, Seigneur. On dit, oh, donc c'est pas un programme très réjouissant, mon Père, hein, ce que vous dites là. Hein. Mais le bon Dieu le sait, d'abord ça le touche beaucoup, hein, de voir que vous passez du temps. Et multiplier ces petits actes, s'il y a des fois, ça peut être très profondément consolant, il y a des fois en lisant la parole de Dieu, ça peut beaucoup vous réjouir, hein, pour avoir des lumières, mais des fois, en méditant la parole de Dieu, vous n'aurez aucune lumière. Ben, peu importe. Je t'ai cherché, mais qui tu es, Jésus, hein. Alors, prenons des choses maintenant un peu plus précises et concrètes. Où prier? On peut prier partout, bien évidemment. Dans l'église, si on peut, mais ce n'est pas toujours simple, hein, devant le Saint-Sacrement, ayez chez vous un coin prière, qui est une partie de votre appartement où, hein, où vous êtes, qui est dédié au bon Dieu. Quand, hein, un petit endroit, une icône, une petite bougie, ça donne vraiment une présence, une bougie. Hein, donc, un lieu dédié, hein, où qu'il soit. Comme ça, vous pouvez vous tourner vers. Hein, donc, qu'il y ait un lieu donc, polarisé par le bon Dieu. Deuxièmement, quand ? La prière. La prière, bien évidemment, c'est quotidien. C'est un besoin quotidien. Si vous n'avez pas l'habitude de prier, commencez par un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est énorme. Hein, un quart d'heure, j'ai fait le calcul pour vous, c'est, vous savez combien ça fait de minutes par rapport à la journée, hein, 15 minutes sur 1440 minutes. C'est donc 1% du temps de la journée. J'ai l'impression que c'est héroïque de prier un quart d'heure, c'est juste donner 1% à celui qui vous donne les 100% de votre temps. Soyons bien précis, 15 minutes, c'est pas 14. 15 minutes, c'est 15. Comme disait le curé d'Ars, hein, le bon Dieu, en général, il bénit la prière dans les 5 dernières minutes. Donc pas de chance. Hein. Si vous amputez, vous allez rater. Parce que ce qu'il touche, c'est le fait qu'on soit fidèle. Et quand vous vous engagez, vous vous engagez. Vous prenez 15... Soyez précis, pas flou. Monseigneur, je te donne vaguement ce temps, oui, je te donne ce temps, voilà. Plus vous êtes imprécis, plus vous l'amputez le temps de prière. Donc, vous calculez le temps. Seigneur, c'est vraiment ce temps, 15 minutes, si vous ne plus donnez plus, mais en tout cas, ne rabotez pas en moins. Alors, est-ce que la lecture des Écritures est considérée comme un temps de prière? Si c'est une lecture priante, si je lis vraiment, c'est concrètement, d'abord, si ce n'est pas tout le temps, je vais prendre un petit passage comme l'évangile du jour, par exemple. Je le prends, hein, et je le prends en demandant à Jésus, mais qui tu es, hein. Ce qui m'intéresse, souvent, on voit ce qui nous touche, nous, alors que ce qu'on devrait d'abord faire, c'est la parole de Dieu, mais qui tu me dis de toi? Qui es-tu, hein, avec cette question-là. Et vous verrez que si vous le faites, il y a des fois où il y a des lumières qui nous consolent, des fois ce n'est pas le cas, mais peu importe, on a vraiment posé la question à Jésus. Alors, et après ça, il y a des méthodes. Hein. Saint Ignace de Loyola demande qu'on compose le lieu, qu'on se le représente, qu'on entende, etc. Donc ça, c'est des moyens qui peuvent aider. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tout le détail. Hein. Quand ça, bah, je dirais le meilleur moment de votre journée. Donnez à Dieu le meilleur moment de votre journée. Et pas le moment où vous dormez. Alors si vous êtes du matin, c'est le matin. Moi, je suis plutôt du matin. Moi, je connaissais un prêtre qui priait la dernière heure de la journée, de 11h à minuit. C'était vraiment un très beau moment pour lui. Donc, découvrez. Je pense que c'est un temps où on peut vraiment être présent. Alors oui, soyons bien clairs. Si vous priez sur votre vélo, si vous priez dans le métro, tant mieux. Puis priez pour tous ceux que vous rencontrez. Hein, la patience des automobilistes parisiens, merveilleux. Hein. Mais mes amis, la prière, c'est un temps donné à Dieu et seulement à Dieu. Alors, c'est bien de prier en faisant autre chose, mais vous imaginez un ami qui ne vous rend compte que lorsqu'il marche dans la rue en vous téléphonant et qu'il n'a jamais de temps, uniquement et seulement pour vous. Ce n'est pas vraiment un ami. Donc, consacrez-lui un temps, rien qu'à lui, sans faire autre chose. Je prie 2 heures par jour, parce que la personne avait 2 heures de trajet en voiture. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas un temps seulement à Dieu. Donc, quotidiennement, ce que disait le père Marie-Eugène, le grand bienheureux Marie-Eugène, il dit, Dieu commence vraiment à agir dans une âme, c'est son expérience qui parle, hein, ce grand maître carmélitain, à partir d'une demi-heure de prière par jour. Hein, on peut commencer par un quart d'heure, mais c'est vrai qu'il y a un moment ou l'autre, on sent bien que une demi-heure, c'est pas vraiment pas beaucoup. Hein, une demi-heure, mais voilà, allez-y progressivement, en tout cas, engagez-vous, posez la décision, vous allez la lâcher, vous la reprenez. Hein, donc voilà, ce quart d'heure qui est vraiment ce moment. Alors, comment faire? C'est comme la confession, vous commencez par le signe de croix. Hein. Aidez-vous par l'attitude de votre corps. Hein. Se mettre à genoux, ça aide, si vous le pouvez. Hein, dans votre coin de prière, de vous mettre à genoux, donc de prier. Mettez-vous en présence de Dieu, vous pouvez prendre la parole de Dieu, ça c'est un moyen. Gardez toujours un petit temps d'intercession pour les autres. Votre prière ne soit pas seulement tournée vers vous, mais tournée vers le monde. Hein. Et puis vous avez toute cette variété, toutes les variétés possibles. Vous pouvez prendre ce que disait Sainte Thérèse d'Avila, le Notre Père, que vous allez prier demande par demande, et c'est tellement riche. Hein. Les 4 formes de prière, vous pouvez aussi varier en prenant ces 4 formes de prière, etc. etc. Je reprends vos questions. Répétez. Oui. Je pense à ce que dit Peggy hein, par rapport à l'enfant qui s'endort en mélangeant les paroles du « Je vous salue Marie » du Notre Père. Moi, dans la rue, moi, j'aime bien dire le chapelet, hein, je dis le chapelet tous les jours. C'est clair que je répète, c'est clair que mon attention n'est quand même pas follement concentrée hein, quand je dis le chapelet. Autre chose, l'adoration. Hein. Mais je pense que ça touche aussi le bon Dieu. C'est une prière simple, humble. Et des grands saints ont dit le chapelet, même surtout dit le chapelet. Hein. Prière, demande, on a vu. Répétition, concentration, on a vu. Donc rentrer en soi-même, on a bien vu ce que ça voulait dire. Hein. C'est rentrer dans le brouhaha et poser des actes qui nous rendent présents. Rencontrer Jésus, oui. Je pensais à ce que dit Sainte Élisabeth de la Trinité, quand elle disait qu'elle prenait rendez-vous. Il y a toute une très belle théologie du rendez-vous chez Sainte Élisabeth de la Trinité. Elle donnait rendez-vous aussi à des amis. Tiens, on va, qui habitaient très loin l'une de l'autre, elle disait, tiens, on va se donner rendez-vous au pied de la croix à 3h aujourd'hui, hein, par la communion des saints. Différence entre adoration et oraison. Oraison, c'est prière. Hein. Adoration, étymologiquement, c'est ad os. Ad, c'est vers. Os, c'est la bouche. C'est être tourné vers. Hein. Étymologiquement, adoration. Mais comme je disais, c'est le bonjour. Faire le vide en soi, on a vu. Y a-t-il une heure pour prier? Alors, comme je vous disais, vous donnez le meilleur temps de votre journée, mais il y a une heure que le bon Dieu aime particulièrement. C'est l'heure sainte. C'est le jeudi. Hein, ce qu'il a demandé à Sainte Marguerite Marie, c'est le seul moment où Jésus a dit qu'il avait besoin de ses disciples. Il a constamment été vers eux, mais il a dit, là mon âme est triste à en mourir, veillez et restez avec moi. C'est bouleversant. Là c'est Jésus, notre ami incomparable, qui nous dit, j'ai besoin de toi. Il nous dit ça. Et là, c'est cette dévotion donc, qui consiste à prier le jeudi de 11h à minuit ou ou de 10h à 11h, ça dépend. Et on passe une heure dans le jardin de Gethsémani à consoler Jésus. C'est le moment où il a souhaité être consolé. C'est gratuit. Consoler au sens propre, cum solus, être avec celui qui est seul. Ça, c'est vrai que c'est une heure particulière, comme la grande miséricorde. Je ne sais pas, être sensible à ce que demande Sœur Faustine. À 3h tous les jours, c'est l'heure de l'amour de Jésus en croix. S'arrêter un moment et faire mémoire. Vous savez que Baudouin, je vais m'arrêter parce que je sens que je suis en train d'exploser les timings. Oula, oui, ça fait plus d'une heure. Le roi Baudouin, dans la cause de canonisation, est introduite. Il avait une montre, vous imaginez l'emploi du temps d'un roi. Il avait une montre qui sonnait toutes les heures. Et ça, ainsi, ses hôtes étaient un peu étonnés, ils ne savaient pas ce qui se passait. En fait, ça lui permettait toutes les heures de tourner son cœur vers Jésus. Comme ça, il était avec quelqu'un, hop, comme ça, un petit moment. On parlait tout à l'heure de la prière continuelle, c'est la question qui était posée. La prière continuelle, ça commence par des petits moyens comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui a marqué dans sa main des, comme le bon Dieu, comme on peut régulièrement voir sa main, hop, comme ça, quand il voyait sa main, hop, il tournait son cœur vert. Ou bien, si un jour je devais me faire tatouer, je ne suis pas tatoué, je ne vais pas vous le montrer, mais je ne suis pas tatoué, mais je ne sais pas si un jour il y avait des persécutions, je pense que je me ferais tatouer une croix, comme les Coptes, sur le poignet, pour dire, oui, je suis à Jésus. Et ça peut être un moyen qui permet de prier. Oui. Alors là, il faudrait parler des critères de discernement. Ça demanderait une séance entière. Pour elle, elle était très sensible, comme je vous disais, aux rêves, aux songes plus précisément. Et c'est vrai qu'elle a eu des songes assez étonnants. Elle avait une grande dévotion pour le père Daniel Brottier. Ma sœur s'appelle Daniel grâce à ça. Et de fait, elle a eu plusieurs fois des rêves où c'était le père Daniel Brottier lui-même qui venait lui dire, en effet, les rentre au ciel. Donc, c'est quand même assez... On peut toujours imaginer que c'est une construction de l'inconscient, une coïncidence, en tout cas pour elle. Et sans le savoir, parce que c'était pas une femme qui avait beaucoup lu spirituellement, mais elle avait un grand sens intérieur, elle recevait aussi une espèce de consolation au sens ignatien du terme. Et sans le nommer, en fait, c'était la conjonction du signe et de cette consolation intérieure. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Alors, Magnificat, il y a plein de prières, parce que il y a à la fois bien sûr les textes de la messe, il y a aussi toujours. Oui. Alors c'est un peu la liturgie des heures en plus réduit. Et c'est comme dirait saint François de Sales, c'est vrai que c'est adapté aux laïcs. Oui, moi je trouve que c'est adapté aux laïcs, c'est bien. Moi je trouve que c'est superbe. C'est comme pas. Oui, ça aide beaucoup, exactement. Alors tout ce qui peut aider comme ça, les applications aussi qui peuvent aider, à partir du moment où c'est pas, on ne reçoit pas toutes les notifications, que ce ne soit pas l'occasion d'aller. Mais, il va de soi. Je ne suis pas en train de vous dire, flagellez-vous, parce que ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais tout ce qui peut vous aider comme ça, profitez-en, mais gardez bien le cœur. Le cœur qui est, je me tourne vers Dieu, pour lui, vers le Père, le Fils, l'Esprit Saint, l'intercession de la Vierge Marie. Qui est cette espèce de gratuité intérieure. Seigneur, j'ai donné ce temps pour toi. Vous n'imaginez pas combien ça touche le cœur de Jésus de voir notre gratuité quand nous venons pour lui. Nous sommes nous-mêmes profondément touchés quand quelqu'un donne du temps gratuitement pour nous. Je le répète, le bon Dieu ne peut qu'être encore plus touché par ça. T'es juste venu parce que tu avais plaisir à me voir, sans rien me demander. Vous n'imaginez pas, la plupart des personnes qui vont vers mon Dieu, c'est pour lui demander des choses. Bon, bien sûr qu'il écoute parce qu'il nous aime. Mais quand on vient pour lui, comme disait la petite Thérèse, jeter des fleurs pour... C'est peut-être des images qui paraissent un peu simplistes. Non. Si on a un cœur qui aime, ça a beaucoup de sens, ces paroles-là. La petite Thérèse, elle disait toujours faire plaisir au bon Dieu. C'est pas réservé aux bonnes sœurs ou aux bonnes femmes. C'est le cœur de la foi. Faire plaisir au bon Dieu. Et vous savez, le bon Dieu, on le voit très bien dans le livre de Job, quand on est ainsi avec lui, quand on vit avec cette gratuité, Mais il redonne en surabondance. C'est impossible que ce soit nous qui posions le dernier geste. Si on fait ça, le bon Dieu, mais il nous remercie, il nous donne tellement plus. Mais on ne le fait pas pour ça. Mais il nous donnera tellement plus. Tellement plus. Offrir plaisir, c'est... Non, c'est plutôt vouloir ton bien. Je veux ton bien. Faire plaisir, c'est vraiment vouloir ton bien. C'est, comment ? Oui, ça peut être bénir le bon Dieu, ça peut être... Tout simplement, c'est une sainte que j'aime... Moi, elle n'est pas sainte, pardon. J'espère qu'elle le sera un jour. C'est Gabriel Bossis, lui et moi. Descendre dans son cœur un moment et dire, Jésus, tu es là, tu m'attends, je t'aime. Et, hop, et puis on repart dans sa vie. Mais juste prendre ce moment, on descend en soi-même, on connecte à celui qui est tout le temps présent. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole, nous viendrons en lui, et nous, mon Père et moi, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure. Jésus est là en moi. Pas besoin d'être dans une église, il est là en moi. Je descends en moi et je lui suis présent. Comment ? Alors, c'est vrai. C'était la conversion de saint Augustin. Je te cherchais hors de moi et tu étais en moi. Bien sûr, exactement. Très bien. Bon, eh bien. Pardon. Alors, est-ce que vous êtes baptisé ? Est-ce que vous êtes baptisé ? Alors, si vous êtes baptisé, vous êtes l'Église, donc ça tombe bien. Alors, puisque vous voulez aider que l'Église aide, peut-être que vous allez trouver un moyen pour commercialiser cette montre. Je vous donne ça comme mission. Ça serait très bien, ça. Vous avez bien compris, hein ? L'Église, c'est nous tous. Ben, et même peut-être qu'il va y avoir une start-up qui va inventer des moyens comme ça, on ne sait jamais. Très bien, voilà, on va continuer à se confier au bon Dieu. Surtout bonne pratique, hein, bonne décision. Hein. Ce qui nous transforme, ce n'est pas ce qui nous touche. Ce qui nous touche est important, c'est ce que, en sortant, vous allez décider. Prenez un temps pour décider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.